revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 7, année 2016. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, un sommaire relativement complet, mais avec des redites.
Et oui, mais en même temps, pour ceux qui ne les ont pas vus la semaine dernière, qui ne nous ont pas entendus, c'est toujours intéressant. On reparle des hackers, l'étude sur les femmes qui coderaient mieux que les hommes, la formation à Granville, la DSI de l'État et son forum, la réparation, le recyclage des vieux objets, le système d'exploitation souverain, qu'on adore, et pour finir, un petit truc sur de Benoît Thuelin sur des mondes numériques.
Libération, Gabriella Coleman. Les hackers se débattent entre l'individu et le collectif. Une interview menée par Amaël Guiton. Donc, Gabriella Coleman, c'est une anthropologue qui a travaillé sur les hackers et qui vient de publier un livre.
Donc, notamment les Anonymous, et elle a fait du terrain. Elle s'est un petit peu mélangée avec, notamment avec les Anonymous. C'est mélangé dans les groupes d'informaticiens depuis plusieurs années. Donc, ce qui a permis de ressortir tout ça. Donc, faut voir un petit peu ce que voit ton regard de sociologue, justement.
Repenti. Enfin, en tout cas, j'étudie un peu ça pendant mes études. Ça commence à remonter loin. Non, je trouve ça pas mal. Le fait déjà qu'elle ait fait vraiment un boulot de terrain, c'est quelque chose de bien. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui parlent de beaucoup de choses sans y mettre les pieds. Donc, bah voilà, elle fait un peu une nomenclature des différents types de hackers et avec un propos politique, sociologique, en disant, bah, quel est l'importance qu'ils ont. Donc elle met vraiment l'accent sur la dimension politique qu'il peut y avoir, avec notamment un peu une spécificité européenne des hackers européens, notamment sur cette question des données privées, de la surveillance, ce genre de choses. Et donc voilà, donc je pense que le bouquin doit être assez intéressant.
La conclusion qu'elle fait de tout ça, en fait, c'est qu'il y a autant de profils de hackers que de groupes de hackers. Et l'exemple qu'elle donne, bah, c'est entre Wikileaks et Anonymous, on va de Wikileaks où il y a trois pelés qui tiennent la baraque. Donc,
qui est plutôt individualiste.
Qui est plutôt individualiste,
coup, si
on l'a vu.
On essaye de répertorier.
Qui ont été assez personnifiés par Julian Assange et...
La star.
La grosse star de Wikileaks, et à l'inverse Anonymous, où bah, n'importe qui peut se réclamer d'Anonymous, il n'y a pas vraiment de code, de règles ou
et
autre.
Et t'as pas le droit de parler en tant qu'individu.
Voilà, y a pas, l'individu s'efface complètement par rapport au groupe, et c'est vrai qu'il y a vraiment tous les deux extrêmes, avec des choses plus institutionnelles entre les deux, des groupes d'associations plus standards, donc il y a vraiment tout un panel de possibilités, et c'est quelque chose de très très ouvert.
Sachant qu'elle, elle présente vraiment les activistes, comme elle dit, comme le contre-pouvoir sur le réseau, donc contre-pouvoir des institutions, j'imagine, mais en tout cas, il y a des choses pas mal.
Tout à fait. Donc c'est intéressant parce que je pense pas qu'il y ait tant de travail sérieux que ça sur un peu cette sociologie. Donc ça a l'air assez intéressant, je pense que je vais commander son livre au Père Noël. Le Parisien, d'après une étude, les femmes codent mieux que les hommes. Un article de Sabrina Halili.
Donc ça, on l'a vu déjà passer la semaine dernière. Hein. Donc pour rappel, il y a une étude de fait sur les codes des femmes comparé aux codes des hommes et qu'en gros, les femmes codent mieux tant qu'on sait pas que ce sont des femmes. Et dès qu'on le sait, bah, y a un espèce de regard machiste qui se met en place. Et donc, t'as des petits biais qui apparaissent.
Et c'est fait de manière double aveugle, hein, avec des données existantes, préexistantes. Ce qui est pas mal, c'est que le sujet est revenu dans plusieurs médias qui nous parlent d'habitude. Hein. Y a aussi Data News et programmé. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui bouge, parce que justement, bah, les femmes dans le monde du libre, puisque là, ça parle largement du monde du libre, c'est une vieille problématique. Et là, bien, il y a un côté, bah, c'est de votre faute, quoi, qui est assez moche.
Oui, oui. Alors, on rappelle que la différence, elle est de 15%, ce qui est à peu près correspond aux différences de rémunération, par exemple, ou de choses comme ça. Donc, on peut aussi dire, c'est pas pire qu'ailleurs, mais en tout cas, c'est vachement bien de pouvoir le démontrer, de mettre le doigt dessus. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec ces données par rapport au code, c'est qu'on peut vraiment objectiver les données. Autant aller travailler sur les rémunérations, c'est très compliqué parce que derrière, il y a plein de cas spécifiques et donc on va toujours trouver à redire, etc. Là, la méthodologie, elle est vraiment carrée. Et du coup, c'est des chiffres vraiment intéressants pour ça, je trouve. Ouest France, formation, l'école numérique Granvillaise fait des petits. Un article de la rédaction.
Alors, je sais même pas où est Granville, les gars.
C'est sur la côte.
Ah, enfin, Ouest France.
Ouest France, c'est plutôt Bretagne.
C'est dans la Manche.
Non, c'est dans la Manche, quoi. C'est sur la côte de la Manche. Et donc là, c'est une école qui est un peu particulière, en fait, qui accueille bah, tous les gens qui ont envie de se mettre un peu à tout ce qui est le logiciel libre, le code, le développement, etc. Donc, il n'y a pas de diplôme ou quoi que ce soit d'obligatoire. C'est juste des entretiens de motivation et des personnes très, très motivées qui vont y aller. Et donc c'est un peu l'équivalent de Simplon qu'on a nous en Île-de-France. Et c'est des bonnes, très bonnes initiatives.
Il se pose un peu aussi en exemple sur 42, l'école 42 ouais. De Xavier Niel. Et puis il y a d'autres écoles. Hein. Il y a un autre article sur l'Open Source School, il me semble. Et donc là, ça a l'air d'être lancé à l'origine, à l'initiative d'une boîte, FactoryFX, qui fait du libre, hein, donc des gens très bien. Et ils se lancent pour prendre en grande partie, c'est des gens qui vont travailler en entreprise et qui vont avoir des journées de formation dans une école. Donc cette alternance a l'air d'être assez intéressante. pour monter de niveau tous ces gens-là et les faire les introduire au logiciel libre.
Et bon, il y a une deuxième chose que je trouve assez fabuleuse, c'est qu'il y a une photo et bon, il y a une belle brochette de geeks autour d'une table avec un qui a un costume de Pikachu. Bon,
voilà. C'est vrai que c'est énorme.
Ou une, on voit pas bien.
Kota, si tu nous entends.
Voilà. Mais ils sont tous en noir, sauf voilà une sorte de créature tout en jaune et je trouve ça assez rigolo. Silicone.fr, la DSI de l'État, promeut son forum sur le logiciel libre, un article de Ariane Becky.
Donc ça, on en a déjà parlé aussi, hein, donc c'est une redite de la semaine dernière. Donc la DINZIC, qui est une agence, c'est un peu la DSI de l'État, hein, c'est vraiment ceux qui prennent les décisions en termes d'informatique, vient d'ouvrir un forum où les utilisateurs, les citoyens, sont appelés à communiquer dessus, poser des questions, s'interroger
apporter
sur...
Apporter la connaissance aussi.
Apporter la connaissance, c'est vraiment très ouvert et très informel, donc n'hésitez pas à aller là-bas, à participer, il y a des soirées.
Forum.etalab.
Voilà, forum. .gouv.fr
voilà. Oui, c'est vraiment possible. Et le forum est vraiment bien. C'est une super techno que je trouve très intéressante. Et je pense que c'est une bonne initiative qui pourrait peut-être faire discussion dans les autres ministères pour dire, bah, regardez, vous pouvez discuter avec vos citoyens, vous pouvez discuter avec les usagers. C'est pas mal.
Voilà. Et donc, il y a des soirées de contribution à ce forum-là qui vont être organisées en Ile-de-France. Donc, si vous voulez rejoindre les groupes pour justement bah, animer tout ça et faire du filtrage, chasser le troll et chasser le spam... ou aussi contribuer à poser des questions ou à répondre, bah, n'hésitez
on
pas à venir.
On peut aussi organiser ça chez soi. Hein,
ou chez soi.
Ça va se faire en Ile-de-France, mais n'importe qui peut monter ça dans son coin, dans son gul, etc. Voilà, il y a plein de choses à faire de ce côté-là. La Croix, des ateliers de réparation pour recycler ces vieux objets. Un article de Anne-Marie Kézet.
La Croix, c'est quoi comme genre de magazine, comme genre de site?
Je ne pense pas que ce soit lié à la couture, à mon avis. C'est... plus lié à la religion, c'est un magazine chrétien, sans doute catholique, je dois avouer que je le lis suffisamment peu, voire pas du tout pour faire la différence, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de ces ateliers où on répare le matériel.
Donc le but, c'est de faire des ateliers de travail, hein, où on amène ces vieux objets à réparer, et plutôt que de les jeter, ben, on va les désosser, on va essayer de remplacer les pièces qui ne fonctionnent plus.
Ça a l'air d'être très à la mode, ouais, hein, il y a ce genre d'ateliers qui s'installent de plus en plus, en France et ailleurs, ça fait des petits, donc les Repair Café notamment, vous pouvez en avoir un à côté de chez vous, ou vous pouvez en installer un à côté de chez vous. Donc tous les matériels sont bienvenus, si je comprends bien. Il faut des compétences, il faut du temps, quelques moyens, généralement un lieu et des vieilles machines, hein. Ça va avec. Mais il y a vraiment ce côté, on combat l'obsolescence programmée qui est très intéressant.
Donc derrière cette initiative, il parle d'une initiative à Dijon et on retrouve Coagul, qui est une association, qui est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres et qui ont monté ce truc-là. Et on est complètement dans la démarche hacker, orientée sur la réparation. Donc du coup, c'est une porte d'entrée qui fait sens pour le grand public. Et voilà, c'est une des citations de gens qu'ils ont interviewé qui ressort, qui dit je veux apprendre et pouvoir faire moi-même. Ça, c'est voilà, c'est le hacking par excellence, c'est le logiciel libre, c'est la maîtrise de ce qu'on fait, même si dans ce cas-là on va être sur du matériel et pas nécessairement sur du logiciel. Alors, truc qui moi m'a un petit peu fait tiquer, c'est Repair Café est désormais une marque déposée, donc on sent qu'immédiatement, bam, il va falloir mettre de la propriété intellectuelle dessus, quoi.
Non, mais ça se tient, je veux dire, Linux est aussi une marque déposée qui a été déposée un peu tardivement, mais il le dépose souvent, hein, c'est dans une optique de défense pour éviter qu'il y ait un grand groupe qui dépose le truc à leur place. Et qui commence et qui à les expulser dessus, voilà. Du terme en faisant du fric, hein, sur leur dos.
Voilà, c'est vrai que ça peut être des dépôts de brevets ou de marques de protection, mais là je pense que c'est plutôt histoire de bien pouvoir contrôler le système, parce qu'apparemment il faut quand même se faire un peu adouber pour pouvoir s'appeler Repair Café.
Voilà, faut voir dans la pratique comment ça donne. C'est, peut-être que c'est pour éviter le n'importe quoi, et peut-être que c'est moins sympathique. Mais on verra bien, en tout cas, bravo à Coagul d'avoir monté cette initiative, et si ça vous intéresse, inspirez-vous d'eux. Science et avenir, vers un système d'exploitation à la française, point d'interrogation, un article de la rédaction. Ce sujet, il dure, hein, on le revoit revenir encore et encore et encore. Donc, voté pendant la loi sur le numérique, et avec cette idée de faire une agence pour avoir un système d'exploitation souverain.
Ben, c'est vrai qu'ils se sont fait quand même bien rironner, hein, parce que justement...
Tout le monde a rigolé.
Tout le monde a rigolé en disant, mais arrêtez, vous allez le retour des bidochons, comme disaient certains. C'est vrai que... Bon,
et puis avec les plans numériques, le Minitel, on rappelle plein d'expériences françaises qui n'ont pas forcément était si mauvaise à la base. Hein. Et là, effectivement, il y a des gens qui prennent des exemples. Alors, il y a un système d'exploitation déjà existant, fait par je ne sais plus quelle agence.
Qui est l'ANSI, c'est l'ANSI qui a fait Clip, mais
qui a l'air d'être pas si mal sur le principe.
Pas si mal, mais c'est pas utilisable pour le grand public.
Voilà,
c'est vraiment pour
des
systèmes très sécurisés, donc c'est vraiment...
Et la personne qui défend le sujet, c'est Madame Bateau, qu'on aime bien sur certains sujets, non?
Bon...
Nous lui transmettrons. Non, mais par contre, ce qu'elle dit, c'est que les propos, c'est vrai que le retour des Bidochon et autres, ça a été aussi un peu caricatural, parce que c'est vrai que l'article de loi a été passé assez rapidement. Tout le monde s'est emparé de ce truc-là en disant, regardez, ils vont encore faire n'importe quoi. Et donc, Delphine Bateau arrive derrière en disant, non, on a quand même réfléchi au truc, on veut pas tout redévelopper depuis zéro. On va se baser sur des briques type Linux ou autre. Donc, on va essayer de faire les choses proprement.
Coup, on est plutôt content. Là, on est content. C'est même dans le sens intéressant, constructif. Peut-être que l'État français va un petit peu construire par-dessus des briques existantes et les redonner, ce que font déjà d'autres États. Il me semble qu'il y a des États espagnols, d'Amérique du Sud, Corée du Nord, qui utilisent du logiciel libre pour faire leur propre version, leur propre distribution. Et la France pourrait tout à fait faire ce genre de choses qu'elle distribuerait dans ses administrations et qu'elle recommanderait à plein de groupes.
Alors moi, je trouve que ça manque franchement d'une sorte de prise de recul par rapport à la politique française sur le sujet. À l'April, ça fait plus de 10 ans qu'on se bat sur ce qu'on appelait la vente, ce qu'on appelle maintenant la vente forcée, suite à un changement de législation, qui est le fait que les ordinateurs qu'on achète dans le commerce viennent avec des systèmes d'exploitation préinstallés et d'autres logiciels préinstallés, évidemment Windows, plein d'autres choses, et que ça a toujours été un moyen super efficace pour qu'il n'y ait aucune autre alternative qui arrive, que c'est l'outil par excellence qui a permis à Microsoft d'imposer son monopole, que on a entendu des tonnes de fois de tas de politiciens en disant oui, c'est pas normal, on va faire quelque chose, qu'ils n'ont jamais rien fait.
Et que c'est complètement illégal, hein, d'ailleurs. Alors,
non, parce que t'as des jurisprudences qui disent que oui, que non. Mais en gros, ça fait plus de 10 ans que tous les politiques noient le poisson, que l'État collabore abondamment avec Microsoft en passant des commandes à Microsoft Irlande sans appel d'offres, etc., avec les accords Open Bar, avec partenariat dans l'éducation. Et là, ils nous disent « Oh là là, mais oh non, c'est horrible, etc. » On est complètement dépendant des Américains, mais ils y travaillent activement et ils font tout pour depuis que l'informatique grand public existe. Et aujourd'hui, ils se réveillent en disant « Il nous faut une alternative. » Alors, je rappelle encore, j'aime bien en parler, même, j'ai jamais testé cette distrib, mais Mageia est une distribution GNU Linux, développée essentiellement par des Français, et ils n'ont pas attendu l'État français pour faire ce truc-là, ça existe, donc il serait peut-être pas mal d'aller se pencher sur ce que font ces gens-là, et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie, et j'aurais bien aimé que Delphine Bateau ait un petit peu de sens autocritique par rapport à la politique de la France jusqu'à maintenant.
L'ANSSI soulève aussi peut-être un loup caché, hein, parce qu'en fait, ils disent que ça peut être aussi la bonne idée pour faire un système d'exploitation qu'on va verrouiller derrière, un peu comme a fait la Corée du Nord, hein, pour essayer de contrôler sa population. C'est vrai que ça pourrait donner des billes pour les politiques, pour mettre des mouchards à l'intérieur ou coder de la loi, code ISLO, hein, on en parle souvent. Et donc l'ANSSI a bien signalé qu'ils étaient absolument contre ça et que si jamais le gouvernement allait dans cette direction-là, ils n'hésiteraient pas à monter au créneau pour taper dessus.
Et dans l'article suivant, il y a des choses qui font écho à cette question-là, sur cette question de souveraineté et autres, et justement je trouve qu'ils s'enchaînent pas mal du tout. Libération.fr, Benoît Thiolin, il y a plusieurs mondes numériques possibles, un article, une interview menée par Amel Guiton. Il s'agit du passage de main au niveau du CNUM, donc ça c'est une émanation de l'État. Donc Benoît Thiolin passe la main à Mounir Majoubi, et on en avait parlé la semaine dernière, puisqu'en fait il n'y a plus aucun représentant du logiciel libre, où il y en reste vaguement
un.
Voilà, et les autres ont été dégagés, et... le sujet est abordé en disant « Oui, il n'y en a plus, mais tout le monde adore ça, donc il n'y a pas de problème. »
Ça va être beau, hein, effectivement, il n'y a plus de défenseurs directs. Après, ça n'empêche, ils partent de bonnes choses, puisqu'il y a eu des bons rapports, il y a eu des idées intéressantes qui ont été lancées, et des idées un peu iconoclastes aussi. Donc peut-être qu'ils peuvent s'emparer de l'idée de l'OS souverain, et au contraire, attendez, Mageia ou d'autres distributions, c'est de l'OS souverain de fait, hein, on le produit en France, fait par des Français pour des Français. On peut juste rajouter là-dessus, on peut le réinstaller au Parlement français, puisque Mandrake, qui était une ancienne version, a été installé pour le Parlement français. Il y a peut-être déjà des choses dans ce sens-là. Et puis globalement, ils sont une voix qui parle un petit peu à l'exécutif, au législatif. Ils peuvent pousser un petit peu grâce à leurs rapports et à leurs travaux pour aller dans des sens qui nous plaisent bien. Ça a été le cas un petit peu dans le passé.
Puis là, même Tristan Ito l'a remarqué, hein, qui faisait aussi partie du CCNUM, qui dit bien qu'aujourd'hui, les propositions qui ont été faites, même pour le futur plan de route de ce nouveau bureau, c'est pas si débile, délirant que ça. Il y a des bonnes idées dedans et il faut voir ce que ça donne. Il faudra effectivement qu'ils aient un peu la carrure et les épaules pour aller porter des dossiers un peu touchy, mais que pour le moment, ils ont l'air d'être plutôt bien partis et que ça peut donner des choses assez drôles dans le futur. Un peu comme CNUM comme on l'a connu ces dernières années.
Alors, il faut rappeler, hein, que ça a effectivement été une plutôt bonne surprise, CNUM, parce qu'on n'en attendait pas grand-chose. Et il y a des choses vraiment intéressantes et assez surprenantes qu'on s'en sortit. Donc c'était plutôt pas mal. La suite, qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. Alors ce qui est intéressant, c'est que Benoît Thiolin fait quand même une rétrospective des actions en disant là, on s'est planté. Il admet des échecs, ce que je trouve bien.
Pas mal, c'est assez rare en politique en ce moment.
Voilà, lui n'est pas un politicien, donc c'est agréable à lire de dire oui, là, je pense qu'on a été bon, là, c'est moyen. là on a été mauvais. Ça fait plaisir à lire. Moi, il y a une phrase de son successeur qui m'inquiète un petit peu, qui dit « Il faut construire un monde dans lequel il y a du collectif et des communs, ce qui n'a rien à voir avec une vision hyper-capitaliste, libertarienne de remise en cause des États. C'est à l'Europe de relever ce défi et à la France d'avoir un rôle. » Et donc, je retrouve cette espèce de truc de État contre entreprise qui, je trouve, est assez inquiétante et voilà, me laisse en comprendre derrière sa nomination, en tout cas, c'est mon côté parano qui parle, qu'il est là, effectivement, pour aller dans la lignée de la loi numérique, de la reprise en main, du serrage de boulons et du contrôle étatique qui est en train de se mettre en place.
Oui, il en parle un peu plus loin, hein, PME, PMI, l'économie européenne. Donc, faudra voir un petit peu comment ils s'organisent, hein, comment ils veulent travailler et vers quoi ils veulent travailler. Moi, je vois bien qu'ils continuent à reprendre les anciennes idées, y compris le revenu citoyen. J'avais kiffé qu'ils posent ça sur la table, là.
Isabelle Attard l'a repris, d'ailleurs, récemment à l'Assemblée nationale. Il faut voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ce seraient des bonnes idées.
Très bien, on a fait le tour de cette revue de presse. Merci à vous deux.
Bon, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.